Un peu de la série de messages que nous allons apporter sur Daniel. Alors, la première fois, bien, on avait vu que lorsque les Babyloniens avaient expliqué le contexte historique du livre de Daniel, on avait partagé que lorsque les Babyloniens avaient envahi Jérusalem, Daniel et ses trois amis avaient été emmenés captifs à Babylone, une ville qui avait un mode de vie, une culture qui était profane et dont les traditions et la religion était complètement différente du mode de vie des Juifs et de leur religion monothéiste. Et les quatre adolescents juifs vont suivre une formation, un endoctrinement et une éducation de 3 ans destinée à les séparer de leurs croyances, de leur culture juive et de leur culte au Dieu Yahvé. Mais voilà, Daniel et ses compagnons avaient alors adopté des principes qui ont fait qu'ils avaient une foi inébranlable en leur Dieu. Je pense que dans le contexte dans lequel on vit, par rapport à la première épître de Pierre qu'on étudiait ensemble le mercredi soir et par rapport à cette série de messages, eh bien, c'est quand même, ce sont deux livres qui sont extrêmement d'actualité dans la période dans laquelle on vit. On baigne dans des cultures qui sont profanes, qui sont laïques, qui sont séculières, des cultures où on cherche à nous amener dans un conformisme de la pensée, où tout le monde doit penser pareil, sinon on est traité de terroristes, on est traité de fondamentalistes, d'extrémistes, de gauche ou de droite. Et par rapport à cela, eh bien, les chrétiens subissent une pression énorme, autant que les gens qui sont dans le monde, à faire des compromis dans leur foi, dans leur croyance, et pour se conformer finalement à faire en sorte que cette société dans laquelle on vit, mondialement parlant, je ne parle pas de la Belgique, mondialement parlant, eh bien, puisse avoir adopté une seule ligne de pensée, une seule ligne de conduite. Et on va voir que Daniel, c'est quelqu'un qui, à travers une société complètement païenne, une société qui dirigeait le monde, un empire qui dirigeait le monde à ce moment-là, eh bien, a su se tenir debout. Et le fait qu'il s'est tenu debout, le fait qu'il n'a pas osé faire de compromis, eh bien, il a reçu de riches bénédictions de la part de Dieu. Et Dieu n'a pas attendu pour le récompenser qu'il soit au ciel, mais Dieu l'a béni immédiatement. Et je pense que c'est réconfortant pour nous, parce que tôt ou tard, on va être confronté à ce genre de situation que Daniel a vécu, faire des choix par rapport à notre foi, et prendre position pour le Seigneur Jésus au prix de différentes persécutions, de différents sacrifices. Alors, le principe, les quatre adolescents, eh bien, ont pu se tenir debout parce que c'était des gens qui avaient des principes. Et le premier principe, on va le voir dans les versets 8 à 16. Je ne lirai pas tous les versets qu'on va regarder ce matin, c'est-à-dire les versets de 8 à 21. Bon, c'est parce qu'on va les lire au fur et à mesure que on va voir le passage. Mais les quatre adolescents, eh bien, premièrement, on voit qu'au verset 8a, le premier verset, il est écrit « Mais Daniel prit la ferme résolution de ne pas se rendre impur en consommant la nourriture et le vin de la table royale. » Et Daniel, c'est quelqu'un qui connaissait la parole et c'est ça qui va aussi l'amener à prendre une position. Comment faire pour savoir si on doit dire non, si on doit dire oui à des choses qu'on nous offre dans ce monde, dans la société dans laquelle on baigne? Eh bien, c'est en fonction non pas de ce qu'on pense, de ce qu'on croit, mais c'est en fonction de ce que la parole dit. Et le chrétien, en tout cas le chrétien qui est né de nouveau, est appelé à vivre non pas en fonction de ses convictions personnelles, mais en fonction des convictions, de ses convictions qui proviennent de la parole de Dieu. Et ici, eh bien, en verset 8, la première partie du verset 8, Daniel va décider de ne pas se rendre impur. Et de quelle façon Daniel se serait-il souillé s'il mangeait la nourriture et le vin que voulait lui donner le roi de Babylone? Eh bien, il aurait goûté de la nourriture que Dieu avait interdit aux Juifs de manger. Daniel connaissait les restrictions alimentaires imposées par Dieu aux enfants d'Israël dans la loi de Moïse. Et c'est important pour nous. Encore une fois, c'est une première application pour nous de se dire jusqu'à quel point moi je connais la parole de Dieu. Jusqu'à quel point Dieu me permet de faire telle chose et Dieu me défend de faire telle chose. Jusqu'à quel point je n'ai pas à faire de compromis dans ma parole, dans ma vie chrétienne. Daniel savait qu'il ne devait pas manger de porc ni de cheval, deux sortes de viande qui étaient généralement consommées à Babylone. Daniel savait qu'il ne devait pas manger de viande qui n'avait pas été débarrassée de son sang. Daniel savait aussi qu'il ne devait ni manger de la viande ni boire du vin qui avait été sacrifié ou offert aux idoles païennes. Comment Daniel connaissait-il aussi bien les restrictions alimentaires qui se trouvaient dans la loi de Moïse? C'est parce que Daniel, eh bien, je pense en tout cas, le texte ne le dit pas, par contre, on regarde l'arrière-plan de Daniel. Je pense que Daniel est élevé par des parents juifs, des parents qui étaient pieux, des parents qui obéissaient aux instructions données par Moïse. et qui ont enseigné méticuleusement, finalement, eh bien, les Écritures à leurs enfants. Et dans Deutéronome, chapitre 6, versets 6 à 7, si vous avez votre Bible, eh bien, vous pouvez tourner. Moïse dit aux enfants d'Israël, « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, pardon, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » On va voir une belle application pour nous qu'on peut faire dans nos familles aujourd'hui. En tant que parents, en tant que grands-parents, on est invités à enseigner nos enfants dans les voies du Seigneur. Le psalmiste écrit dans le psaume 78, les versets 5 à 7, pour ceux qui ont leur Bible. Dieu a établi une règle pour son peuple. Il a institué une loi en Israël. Il a ordonné à nos ancêtres d'enseigner cette histoire à leurs enfants. Ainsi, la génération qui suivrait celle des enfants à naître la connaîtrait à son tour et pourrait répéter à ses propres enfants de mettre leur confiance en Dieu, de ne pas oublier ce qu'il a fait et d'observer ses commandements. Ça, c'est pas quelque chose qui s'arrête juste avant Matthieu. C'est une application qu'on doit faire, nous aussi, en tant que parents, en tant que grands-parents. Enseigner les miracles que Dieu a accomplis dans nos vies. Enseigner, finalement, les instructions que Dieu nous donne dans sa parole. Vous savez, la semaine passée, j'étais avec mon petit-fils, et puis, à un moment donné, il avait fait quelque chose. Et je lui ai demandé si c'est lui qui l'avait fait. Et il me répondait pas. Et il avait la tête penchée et je voyais qu'il avait. Il ne savait pas s'il devait dire la vérité ou s'il devait mentir. Et à un moment donné, j'ai dit, tu sais, Dieu nous a donné des commandements, des règles à suivre. Et il avait toujours la tête penchée. Et j'ai dit, il y en a une, entre autres, que c'est. Il nous dit, tu ne mentiras pas. Je lui ai dit, est-ce que c'est toi qui as fait ça? Il m'a dit oui. Dans la voiture, cette semaine, je me promène avec et je lui dis, écoute, tu sais, je t'avais parlé des commandements de Dieu, je vais t'en donner un deuxième. Le Seigneur, il dit, tu ne voleras pas. Ah! D'un troisième, tu ne diras pas du mal des autres. Ah! C'est comme ça. Mais j'ai expliqué à chaque fois, t'aimerais ça, on t'a acheté un beau gros château à Noël, t'aimerais ça que quelqu'un vienne te voler ton château. Il me disait non, alors tu ne dois pas faire pareil. C'est pour ça que Dieu nous dit, tu ne voleras pas parce que ça attriste les gens quand tu le voles et tu désobéis à Dieu. Et j'avais dit la même chose pour dire du mal des autres. T'aimerais ça quand on parlera en mal de toi, puis que tu apprendrais? Non, OK. Alors, je continue à conduire. Vous savez, j'ai dit que nos enfants, alors, il n'y a pas d'âge pour les enseigner. C'est des éponges. Il me dit, papy, peux-tu me donner un autre secret de Dieu? Ça m'a touché, hein? Peut-être que le mot commandement était trop long à dire pour lui, mais il dit, peux-tu me dire un autre secret de Dieu? Et j'en ai donné un autre. Et frères et sœurs, ça ne fait pas simplement partie des parents, du rôle des parents de transmettre la parole aux enfants, mais ça fait aussi partie des grands-parents. D'assumer aussi la continuité de ce qu'on enseignait à nos enfants pour les enseigner à nos petits-enfants. Moi, j'étais touché qu'il m'ait dit ça et ça me rappelait combien la parole, elle est vraie, enseigne l'enfant dans les voies du Seigneur et il ne s'en détournera point quand il sera grand. Maintenant, il y en a qui se détournent et c'est là, il faut continuer à prier. C'est une promesse du Seigneur. Il faut aussi savoir si ces gens-là ont vraiment accepté le Seigneur ou si ont vécu une religion. Ça, c'est entre eux et Dieu. Mais la parole, elle est claire. Continuons à prier. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de prier pour nos enfants. Dites amen à ça. Si nous n'adorons pas Dieu et que nous ne parlons pas de sa parole à la maison, nous ne préparerons jamais les membres de notre famille à vivre comme des chrétiens efficaces dans notre société non chrétienne. Dans notre société séculière, il est inévitable, et ce peu importe l'âge que les croyants ont, soient en mesure de faire face à des situations où il leur sera demandé d'agir de façon contraire à la parole de Dieu. En tant que parents et grands-parents chrétiens, nous devons préparer nos enfants et nos petits-enfants à faire face à ces occasions qui se présenteront dans leur vie en leur enseignant à la fois la parole de Dieu et en observant nous-mêmes ses commandements. Nous tous, qui sommes chrétiens, avons besoin de nous engager personnellement à obéir aux directives de Dieu qui se trouvent dans la parole, peu importe certaines situations, peu importe les situations, je dirais, auxquelles nous sommes confrontés au quotidien et qui nous invitent aussi à vivre autrement. Est-ce que nous passons du temps à lire la Bible afin de savoir comment Dieu nous ordonne de vivre? Si nous ne passons pas du temps dans la Bible pour apprendre comment Dieu nous ordonne de vivre, comment sommes-nous capables de pouvoir l'enseigner à nos enfants? C'est impossible. Donc, l'exemple commence déjà par en haut. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Ma fille, cette semaine, a dit un mot qu'elle n'avait pas dû dire. Elle l'a dit tout haut. C'est pas un mot qui est vulgaire, mais c'est un mot qu'on dit, on demande à nos enfants de ne pas prononcer. Et c'était bien, encore une fois, l'enfant. Hein, on était dans la voiture. « Maman, t'as dit un gros mot. » Et pourquoi il a pensé qu'elle avait dit un gros mot? Parce qu'on lui enseignait que c'était un gros mot. Ouais. Et bien, ma fille a tout simplement, elle a simplement demandé pardon. Si elle lui enseigne, puis c'est de pas le faire, puis elle le fait, mais c'est à elle de lui demander pardon, quoi. Hein? Souvent, on est toujours en train d'attendre que nos enfants nous demandent pardon, mais on a aussi besoin de demander pardon à nos enfants pour certains manquements, quoi. Est-ce que nous nous assurons que nos enfants connaissent les commandements de Dieu? Les encourageons-nous à lire leur Bible, à fréquenter l'école du dimanche ainsi que l'Église? Désirons-nous de tout notre cœur qu'ils connaissent la parole de Dieu et obéissent aux commandements de Dieu? Frères et sœurs, nous sommes invités, Éphésiens chapitre 6, verset 4, nous sommes invités à élever nos enfants en leur donnant une éducation et une discipline inspirées par le Seigneur. Je vous ai dit il y a deux semaines que le premier verset que j'ai appris à mon fils, à mon petit-fils, c'était Genèse chapitre 1, verset 1. Ils sont inondés d'enseignements à l'école concernant le Big Bang, concernant l'évolution, concernant tout ce qui est anti-biblique. Le premier verset que nos enfants devraient apprendre dans la Bible, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu est un créateur. Nous ne sommes pas le fruit d'une évolution. Nous ne sommes pas semblables aux chats et aux chiens. Dieu nous a créés, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et après ça, j'ai continué, je lui ai dit, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre, et ensuite, il créa l'homme et la femme. Ensuite, il créa l'homme et la femme. C'est important. Alors, si à 4 ans, on commence à lui enseigner ça, ça va lui rester. Et à un moment donné, il y aura des bombardements dans le monde qu'il recevra au niveau d'un faux enseignement, mais ces deux versets-là se seront ancrés avant. Ils seront déjà avant, il les aura déjà reçus avant de ce que le monde va lui donner. Et c'est important pour nous, c'est vraiment important. C'est vraiment important, frères et sœurs, qu'on puisse enseigner nos enfants dans les voies de Dieu. À mon époque, on nous enlevait, on nous arrachait de notre famille à l'âge de 6 ans. Alors, à 6 ans, moi, j'étais dans une culture de 8, c'est une famille de 8 enfants. On n'avait pas besoin d'aller à la crèche, c'était déjà une crèche dans notre foyer. Et il y avait une tradition de famille qu'on nous inculquait, et à 6 ans, on pouvait aller à l'école sans être ébranlé aussi facilement à travers l'enseignement. Aujourd'hui, à partir de 2 ans, on vient chercher nos enfants dans nos foyers. 2 ans. Et là, c'est le monde qui commence à les enseigner. C'est le monde qui commence à les former dans la mentalité de ce monde d'aujourd'hui. S'il n'y a pas une contrepartie dans le foyer, avec la parole, on va être perdant sur toute la ligne. Et c'est une responsabilité qu'on a en tant que parents, grands-parents, dans un monde aussi païen dans lequel on baigne. Daniel, verset 8, Daniel croyait qu'il devait lui-même obéir à la parole de Dieu. Daniel prit la ferme résolution de ne pas se rendre impur en consommant la nourriture et le vin de la table royale. Il demanda donc au chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur par de tels aliments. Daniel, frères et sœurs, aurait pu manger la nourriture du roi. Après tout, il était loin de chez lui et personne à Jérusalem ne l'aurait su s'il avait mangé la nourriture du roi. Il aurait pu se dire, nous sommes des esclaves, nous n'avons rien à dire. Quelle différence cela faisait-il que j'en mange? Quelle différence cela fait-il que j'en mange ou pas de cette nourriture? Dieu va comprendre après tout, ce n'est que de la nourriture. C'est ce que Daniel aurait pu se dire. Nous pouvons donc la manger, je veux avancer, je dois le faire si je veux avancer. Si je veux avoir à un moment donné un avenir dans ce royaume où j'ai été déporté, eh bien, pourquoi pas? De la nourriture, qu'est-ce que c'est de manger de la nourriture? De plus, si je commence à faire des histoires sur la nourriture, les gens penseront que je suis un légaliste et trop d'esprit. Vous pouvez toujours trouver une excuse lorsque vous ne voulez pas bien faire, frères et sœurs. Mais Daniel n'avait pas besoin d'excuses. Il avait déjà décidé d'obéir à la parole de Dieu, quoi qu'il arrive. Il est écrit au verset 8 que Daniel prit la ferme résolution, c'est-à-dire qu'il a pris dans l'hébreu, ça veut dire que quand il a pris une ferme résolution, c'est qu'il a pris une décision pour lui-même, pas pour les autres, pour lui-même. Il ne pouvait pas décider pour quelqu'un d'autre, mais il a décidé pour lui-même de ce qu'il ferait et de ce qu'il ne ferait pas. Et cela a changé toute sa vie. Je ne sais pas s'il a essayé de convaincre quelqu'un d'autre ou non. Ça n'a pas d'importance. Daniel a pris sa décision, et ainsi que ses trois amis, les plus proches, qui ont décidé de le rejoindre. Et cela m'amène à répéter ce que j'ai dit la première fois lorsqu'on a fait l'introduction de ce livre. Les Babyloniens pouvaient essayer de tout changer chez Daniel, son régime de vie, son régime alimentaire, son lieu d'habitation, son éducation, sa langue, même son nom, mais ils ne pouvaient pas changer son cœur. Pourquoi? Parce que son cœur appartenait à Dieu. Lorsque votre cœur appartient vraiment à Dieu, vous pouvez aller n'importe où et faire face à toutes les situations. Vous pouvez même habiter à Babylone et vous vous en sortirez très bien parce que votre corps est à Babylone et que votre cœur est déjà au paradis. Dans la question que nous pouvons nous poser, où est notre cœur ce matin? Où est votre cœur ce matin? À qui appartient votre cœur ce matin? Est-ce qu'il appartient entièrement à Dieu ou s'il y a encore de l'espace pour... Il y a encore de la place où le monde vient grignoter, finalement, la partie qui appartient à Dieu dans votre cœur, qu'il a payé si chèrement à la croix à travers son Fils Jésus-Christ. Où est-il fixé sur les choses de la terre? Même s'il était entouré de Babyloniens qui ne connaissaient rien des exigences de Dieu, même s'il était loin de l'œil vigilant de ses parents, de ses proches et des prêtres, Daniel avait pris la décision d'obéir à la parole de Dieu. Est-ce que la conviction que nous avons d'obéir à la parole de Dieu est suffisamment forte pour nous permettre de supporter la pression exercée par notre entourage? Est-ce que la conviction que nous avons d'obéir à la parole de Dieu est suffisamment forte pour résister aux petites moqueries de certains? Ou sommes-nous prompts à faire des compromis plutôt que d'obéir à la parole de Dieu? Nous avons un modèle aujourd'hui, nous avons notre frère Daniel. Beaucoup de chrétiens connaissent la volonté de Dieu, mais n'ont ni le désir ni la conviction de s'y soumettre et d'obéir à la parole. Nous devons nous rappeler que transiger avec notre culture non chrétienne et désobéir à la parole de Dieu peut nous coûter très cher au point de vue émotionnel, physique et spirituel. Nous ne pouvons pas mettre un prix ni sur la tranquillité d'esprit, sur la joie et les récompenses éternelles. Le prix à payer pour mettre ça de côté, c'est la perdition éternelle, frères et sœurs. Le deuxième principe que Daniel avait, c'est qu'il était déterminé à obéir à Dieu et à prendre des mesures pour y arriver. On peut dire, moi j'ai décidé d'obéir à Dieu, mais il y a des mesures à prendre pour qu'on puisse obéir à Dieu. Daniel va demander au chef, verset 9, Daniel va demander au chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur en mangeant certains aliments. C'est un esclave qui est en train de parler à quand même quelqu'un qui est employé du roi et qui règne finalement sur le monde. Dieu permit que sa requête, verset 9, Dieu permit que sa requête soit accueillie avec faveur et bienveillance par le chef du personnel. Le verset 9 ajoute un fait crucial lorsque nous lisons « Dieu permit », frères et sœurs. Soudain, Dieu entre dans le décor. Il va permettre que sa requête soit accueillie avec faveur et bienveillance par le chef du personnel, Achépénazaz. Remarquez que la décision de Daniel sera accueillie après que Daniel eut décidé de ne pas faire de compromis, et pas avant. Et ça, c'est important aussi. Ce n'est pas mon sauveur, mais... Merci. Alors, j'ai appris une leçon ce matin. Quand j'amène mon étui à lunettes, il faut que mes lunettes soient quand même dedans. Voilà. Alors, c'est ce qui me perturbe un petit peu tantôt. Ah, là, je vois clair. Alors ça, c'est important de remarquer que la décision de Daniel sera accueillie après que Daniel eut décidé de ne pas faire de compromis, mais pas avant. Et s'il y a une leçon à retenir dans ce passage ce matin, c'est que Dieu honore celui qui l'honore. N'est-ce pas, M. Dimitri? Il y a un beau témoignage à rendre là-dessus. Et un conseil de son père, et il l'a suivi à la lettre, et notre frère Nathan est béni. parce que Dieu lui a donné une femme chrétienne. Et il aurait pu être tenté de prendre une femme du monde, parce qu'il avançait un petit peu en âge, sans être vieux, il était dans l'âge de se marier. Et son père lui avait dit, « Si tu honores le Seigneur dans ce domaine-là, Dieu va t'honorer. » Il a quand même dû aller aux États-Unis pour la trouver, mais Dieu l'a honoré. Et ça, c'est une bénédiction. Et ce n'est pas juste dans le fait de trouver une femme ou de trouver un mari, mais c'est dans tous les domaines de notre vie. Si on honore la parole de Dieu, Dieu va nous honorer. Dites amen à ça. Ouais. Est-ce que Dieu bénit ceux qui l'honorent? Bien oui, bien sûr. Mais en général, vous ne recevez pas cette bénédiction avant d'affirmer ce que vous croyez. Dieu réserve une bénédiction aux audacieux que les timides n'éprouveront jamais. La manière dont Daniel va approcher le chef du personnel démontre qu'il avait un bon esprit de discernement et un bon esprit de sagesse. La proposition de Daniel était très simple, il a demandé que lui et ses trois amis soient retirés du régime alimentaire du roi et qu'on ne lui serve que des légumes et de l'eau. Maintenant, le texte hébreu aussi sous-entend, le mot hébreu sous-entend aussi des céréales, mais pendant 10 jours. Et au bout de ces 10 jours, le garde pourrait comparer, tirer ses propres conclusions. Regardez le verset 10. Toutefois, celui-ci répondit à Daniel, c'est Sa Majesté le roi lui-même qui a prescrit ce que vous devez manger et boire. J'ai peur qu'il ne vous trouve pas en aussi bonne mine que les autres jeunes gens de votre âge. Ainsi, à cause de vous, le roi pourrait me faire couper la tête. Et le chef du personnel, eh bien, c'est normal, il avait peur du roi. Il ne voulait pas se faire prendre en train de modifier ses directives. S'il ne le faisait pas bien son travail, cela risquait de lui coûter la vie. Et la vie d'un homme ne valait pas cher à Babylone, comme elle ne vaut pas cher en Corée du Nord aujourd'hui. Et les employés étaient soumis aux caprices du roi. Et que va faire Daniel? Regardez verset 11. Il n'abandonne pas, il demande, verset 11 à 14. Il n'abandonnera pas, il demande au chef du personnel de modifier son alimentation pour un court laps de temps. Et moi, je trouve qu'il y a un bel exemple à suivre dans Daniel ce matin, dans le chapitre 2. Alors, il est écrit, verset 11 à 14, Daniel dit à l'homme chargé par le chef du personnel de s'occuper de Hanania, de Michaël, d'Azaria et de lui-même. « Je t'en prie, fais un essai avec nous pendant 10 jours, qu'on nous donne seulement des légumes à manger et de l'eau à boire. Ensuite, tu compareras notre mine à celle des jeunes gens qui consomment la nourriture de la table royale. À ce moment-là, tu agiras envers nous d'après ce que tu auras vu. » L'homme accepta cette proposition et fit un essai de 10 jours avec Daniel et ses compagnons. Lorsque le chef du personnel refusa de changer le régime alimentaire de Daniel, celui-ci a quand même persévéré de vouloir plaire à Dieu. Il s'est adressé à l'intendant, nommé par le chef des eunuques, pour s'occuper de Daniel et de ses trois compagnons, en lui proposant de changer leur régime alimentaire pour seulement 10 jours à titre d'essai. Le régime, on le sait encore, je le répète la troisième fois, sera composé de légumes et d'eau. Un régime alimentaire qui garantissait qu'il n'y aurait aucun aliment interdit dans la loi de Dieu pour Daniel et ses compagnons. L'intendant, qui ne relevait pas directement du roi, pouvait se permettre de tenter le coup. Il accepta de modifier leur régime alimentaire pour les 10 prochains jours. Frères et sœurs, la proposition de Daniel, elle présentait plusieurs caractéristiques intéressantes. Premièrement, il a fait preuve de tact dans sa façon de parler. Il n'a rien exigé, il a simplement fait une demande. Deuxièmement, il a obéi en suivant la chaîne de commandement. Troisièmement, sa demande était raisonnable. L'essai serait terminé dans 10 jours et ne demandait pas une préparation de nourriture spéciale pour eux. Et quatrièmement, c'était facile de comparer. Le garde a comparé Daniel et ses trois compagnons avec les autres et a tiré ses propres conclusions. Frères et sœurs, une personne ayant de profondes convictions morales n'a pas besoin d'être impolie, irrespectueuse ou laisser tomber le bon sens pour faire valoir son point de vue. Quelqu'un peut chercher à obéir à Dieu et mener une vie sainte dans une culture laïque sans être désagréable à qui que ce soit. Nous pouvons rendre grâce à Dieu de vivre dans un pays où les autorités nous permettent encore de professer notre foi en toute liberté. Même si les apparences peuvent laisser paraître que la réponse ne sera pas celle que nous attendons, nous ne devrions pas abandonner facilement la partie. Daniel est un exemple à suivre et nous montre que nous devrions persévérer à poursuivre nos objectifs en prenant la décision de ne pas faire de compromis et en cherchant constamment à plaire à Dieu. Frères et sœurs, le monde dans lequel nous baignons aujourd'hui n'a pas besoin de chrétiens qui vont défendre leur foi, ils ont besoin de chrétiens qui vont affirmer leur foi. Affirmer sa foi, ça veut dire arrêter de se taire, arrêter de subir. des idioties, des imbécilités qu'on nous donne, puis on fait un beau sourire de peur de blesser les gens. On est là pour affirmer ce qu'on croit. Les gens ne se gênent pas pour dire, nous affirmer ce qu'ils croient, qui ne tient pas debout. Et nous, par amour chrétien, on se tait, non? On se tait, mais on recule. L'Église est en train de reculer. On doit affirmer, c'est bien que tu crois en ça maintenant, est-ce que je peux te partager, moi, ça, en quoi je crois? Et on les laisse libres de penser ce qu'ils veulent. S'ils nous traitent d'idiots après, de fous, c'est son problème. Ça m'est arrivé, moi, être le premier qui m'a témoigné. Hein. J'ai pensé que ça n'allait pas bien dans sa tête. Hein. C'est deux philosophies de vie complètement différentes. Le monde séculier, le monde laïque, le monde profane, c'est un monde différent du monde chrétien. Et on a besoin simplement d'affirmer. Mais pouvoir affirmer ce qu'on croit, on a besoin de vivre aussi ce qu'on croit pour pouvoir l'affirmer. Chers amis, notre monde a besoin d'avoir des chrétiens qui se comportent comme Daniel et ses trois compagnons. Ils ne cherchaient pas à défendre ce qu'ils croyaient, ils voulaient simplement mettre en pratique ce qu'ils croyaient et ce pourquoi ils vivaient. Ils avaient une foi en un Dieu qui était capable de réaliser l'impossible dans leur vie. Frères et sœurs, est-ce que vous croyez que Dieu est capable de réussir l'impossible encore aujourd'hui? On écoute des chrétiens, on a l'impression que Dieu, c'est un vieillard avec une grosse barbe qui est fatigué, qui fait de l'arthrite de la tête aux pieds et qui n'est plus capable d'étendre la main pour guérir quelqu'un. Ça y prendrait pratiquement quelqu'un pour y tirer le bras. Mais on a une image de Dieu qui est déformée, frères et sœurs. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit, car rien n'est impossible à Dieu. Genèse chapitre 18, quand il a annoncé à Abraham que sa femme aurait un enfant et qu'elle s'est mise à rire, qu'est-ce que l'ange, le Seigneur a dit? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Ou en français courant, y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu de réaliser? Frères et sœurs, on sert un Dieu, on appartient à un Dieu qui peut accomplir des miracles, qui est illimité finalement dans ce domaine-là. Un Dieu qui est puissant, non seulement pour agir dans nos vies, pour nous transformer, mais pour agir dans la vie des autres, pour ceux et celles pour qui on prie aussi, pour les transformer. Pour transformer aussi ce monde, est-ce que vous y croyez? Il peut encore transformer ce monde. Frères et sœurs, le manque de notre vie de prière signifie simplement une chose, notre incrédulité par rapport à ce que Dieu peut accomplir à travers vous, à travers les membres de son Église, dans ce monde qui est perdu. Samuel a dit, « Loin de moi de ne pas prier de peur de pécher. » Il priait pour ses frères. « Loin de moi de ne pas prier pour vous de peur de pécher. » C'est un péché que de ne pas prier. Maintenant, je ne vous dis pas que ma vie de prière est parfaite non plus, c'est pas ce que je veux dire, mais ça devrait nous faire réaliser que, frères et sœurs, il y a une puissance, une force incroyable dans la prière, parce que quand on prie, on donne à Dieu l'autorité d'agir, non seulement dans la vie des autres, mais dans notre vie aussi. Daniel est un exemple à suivre. Chers amis, notre monde a besoin de voir des chrétiens qui se comportent, je le répète, comme Daniel et ses compagnons. Frères et sœurs, la vie des chrétiens n'est sûrement pas à l'abri des difficultés et des soucis. Cependant, la confiance que nous avons en Jésus nous amènera à le prier avec foi selon la volonté de Dieu et à compter sur lui pour aider dans nos problèmes. Son amour et sa puissance ne sont pas prêts à se déployer selon nos besoins et nos prières. La Bible, frères et sœurs, lorsque vous lisez la Bible, on nous dit que l'Ancien Testament nous a été donné à titre d'exemple. Quand vous lisez la Bible, elle nous parle d'un grand nombre de situations impossibles qui ont été renversées par la foi des croyants. Quand le peuple d'Israël était libéré de l'esclavage des Égyptiens, il avait derrière lui la puissance du Pharaon, ils avaient la mer Rouge et en arrière d'eux, ils avaient le désert. Mais Dieu l'a libéré, l'a conduit victorieusement jusqu'à la terre promise. Et on peut même s'imaginer qu'il y avait une poignée d'hommes parmi tout ce peuple qui venait de quitter l'Égypte, une petite poignée qui avait la foi que Dieu pouvait agir. Prenez la foi quand même à Moïse pour étendre un bâton. Hein? Prenez quand même la foi. Hein? Il n'y avait rien de magique dans le bâton. Hein? Mais Moïse savait qu'en étendant le bâton, Dieu agirait à travers lui. Et le bâton, eh bien, il accomplirait quelque chose de magnifique, de grandiose, frères et sœurs. Et c'est la même chose pour nous. Hein? Dieu attend qu'on se lève pour accomplir des choses magnifiques dans nos vies. Et tout cela pour sa gloire. Frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, le récit des grandes délivrances a été conservé pour nous encourager à faire confiance à Dieu. Et le livre de Daniel, il est stupéfiant de voir qu'à travers un seul homme, comment Dieu va manifester sa puissance. Passer Daniel dans la cage au lion, passer à Shédrach, Meshach et Abednego, la paix qu'ils avaient, on était pour les envoyer dans la fournaise ardente. Ils l'ont vu, la fournaise. Les portes étaient ouvertes. Ils ont vu le feu, hein. Ah, ben, écoute, roi, toi, si tu veux nous envoyer, pas de problème. Mais si Dieu a décidé de nous faire brûler, on va brûler. Ils savaient où ils allaient. Mais si Dieu veut nous sauver, il va nous sauver. Et quand le roi a regardé dans la fournaise ardente, il avait lancé 3 hommes, il en a trouvé 4. Le 4e, c'était le Seigneur Jésus qui était au milieu des flammes avec les 3. Ils sont sortis de là, ils ne sentaient même pas de roussi. Ils ne sentaient même pas de brûler. Par contre, les soldats, quand ils ont voulu fermer la porte, ils sont morts, brûlés. Ils étaient à l'extérieur de la fournaise, pas à l'intérieur. C'est extraordinaire, hein? On a un Dieu merveilleux. Et on pourrait dire comme ce père dont le fils a été délivré d'un démon. On pourrait dire comme ce père, « Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Viens au secours de l'incrédulité de ton Église aujourd'hui, qui baigne dans l'abondance et qui a besoin de toi seulement quand il n'y a pas d'autre recours. Viens au secours de notre incrédulité. » Notre foi s'adresse à un Dieu puissant et plein de grâce. A-t-il laissé s'enfoncer son disciple Pierre sous prétexte qu'il manquait de foi? A-t-il laissé sans secours ce père désespéré qui suppliait Jésus en disant « Viens au secours de mon incrédulité ». A-t-il attendu que ses disciples acquièrent une grande confiance en lui pour apaiser la tempête qui les terrorisait? Frères et sœurs, présentez nos doutes au Seigneur. Ça s'appelle déjà avoir la foi. Dieu t'emmène à ça. Ce père qui a dit « Viens au secours de mon incrédulité », ça voulait dire quoi? « Seigneur, viens recharger mes batteries parce que ma foi, elle est tellement, tellement, tellement morte. Viens au secours, viens me rebooster, Seigneur. Si nous sentons que nous manquons de foi, reconnaissons-le devant le Seigneur. Détournons nos regards de nous-mêmes et regardons vers celui sur qui repose notre foi, frères et sœurs, en comptant sur sa grâce. » 3e principe que Daniel avait. Daniel, pour son obéissance, Daniel obéissait au Seigneur et pour son obéissance, versets 15 et 16, regardez, Dieu va lui donner une récompense. Dieu va le récompenser. On ne court pas après les récompenses, mais Dieu est fidèle. Les versets 15 à 16 nous disent qu'à la fin des 10 jours, les 4 adolescents paraissaient mieux avec leur régime que leurs semblables qui mangeaient du steak à la table du roi. Ils avaient l'air tellement bien que le garde les laissa continuer leur régime. Regardez ce qui est écrit. À la fin de cette période, on a pu constater qu'ils avaient meilleure mine et avaient pris plus de poids que les jeunes gens nourris des mets de la table royale. C'est pourquoi l'homme qui était responsable d'eux continua d'écarter la nourriture et le vin qu'on leur fournissait. Il leur donna seulement des légumes. La foi de Daniel l'avait amené à croire que ça ne prendrait que 10 jours pour que Dieu apporte une amélioration tellement évidente de son apparence sur l'intendant et que l'intendant accepterait de changer son régime de façon permanente. Dieu a récompensé la foi de Daniel, car à la fin des 10 jours, les 4 hommes avaient une apparence plus saine que les autres, au point où l'intendant a fait changer leur régime alimentaire de façon permanente. Cette histoire se termine sur une note positive. Nous découvrons dans ce verset que Dieu honore toujours ceux qui l'honorent. Dans ce cas-ci, la récompense est venue au bout de 10 jours. Mais cela prend souvent beaucoup plus de temps, n'est-ce pas? Et parfois, lorsque nous sommes fidèles, notre récompense ne vient que lorsque nous arriverons au ciel. Il y en a qui, probablement que chez les anciens frères, on se rappelle de l'histoire de Georges Miller qui a prié pour 3 hommes dans sa vie. Il y en a un qui s'est converti avant sa mort, un qui s'est converti au moment de son décès. Il y en a un qui s'est converti, je pense, si je me souviens bien, 7 ans après son décès. Frères et sœurs, la prière que vous faites de votre vivant est non seulement efficace pendant votre vie, pendant que vous êtes en vie, mais aussi après que vous soyez en mort. Même après que vous soyez monté au ciel, que vous soyez dans la présence de Dieu. 7 ans après que Georges Miller avait prié, 7 ans après qu'il soit mort et qu'il avait prié pendant des années pour ses 3 conversions, eh bien, Dieu l'a récompensé. De son vivant, au moment de sa mort et après sa mort, ces 3 personnes se sont tournées vers le Seigneur. Ça devrait nous encourager aussi. Peut-être que vous ne verrez pas vos enfants se convertir de votre vivant. Mais si vous priez, la prière du juste est d'une grande efficacité. Et si vous avez à cœur le salut de vos enfants, si vous avez à cœur le salut des gens du monde, eh bien, vous allez arriver en haut et vous aurez de grandes surprises de voir que des gens pour qui vous avez prié, que vous n'avez jamais venu venir à Christ de votre vivant, eh bien, viennent vous rejoindre au ciel quelques années plus tard. Ça, c'est Georges Miller, c'est aussi Dwight L. Moody qui a connu la même chose, d'autres grands serviteurs de Dieu qui avaient une vie de prière intense, qui ont vu des gens après leur décès, eh bien, qui ont vu, non, qui... Ben oui, je dirais qu'ils ont vu, entre guillemets,
que les prières qu'ils avaient faites de leur vivant, eh bien, ont porté du fruit, même après qu'ils étaient dans la gloire de Dieu. Maintenant, j'aimerais dire simplement faire ceci, faire attention en lisant cette histoire, de penser que chaque fois que nous affirmons nos convictions, nous serons immédiatement récompensés. Il y a aussi des tribulations, hein, le Seigneur le promet aussi. Et ce passage prouve que parfois c'est le cas, mais que d'autres fois cela se passe autrement. Nous n'avons qu'à penser que dans de nombreuses régions du monde, nos frères et sœurs payent de leur sang pour leur fidélité à Jésus-Christ, alors qu'ils prient depuis des années pour obtenir leur liberté de penser et de parler. Par conséquent, je pense qu'il convient d'être émerveillé devant la récompense que Daniel a reçue seulement au bout de 10 jours, mais nous souvenir également que Dieu traite avec nous de façon individuelle ou personnelle. Il nous demande d'être fidèles, sachant qu'à la fin, que ce soit sur terre ou au ciel, personne ne regrettera jamais d'avoir affirmé sa foi en faveur de Jésus. Le verset 17, eh bien, regardez ce qui était écrit. Dieu accorda aux 4 jeunes gens du discernement et de vastes connaissances dans les domaines de la langue et de la sagesse. Daniel était en outre capable de comprendre le sens des visions et des rêves. Et nous apprenons ici au verset 17 que Dieu a donné à ces 4 hommes de la sagesse et du discernement. Cela garantissait qu'ils se démarquaient au-dessus de leurs contemporains juifs et bien au-dessus des Babyloniens. Et ces 4 jeunes hommes vont bientôt se retrouver dans des positions énormes, dans des positions au sein d'un gouvernement païen. Il est important ici que nous remarquions le déroulement des choses. Premièrement, ils ont pris la décision d'affirmer ce en quoi ils croyaient. Deuxièmement, Dieu a honoré cette décision. Et troisièmement, Dieu leur a donné un esprit de sagesse et de discernement. Vous pouvez difficilement demander à Dieu de faire preuve de sagesse lorsque vous vivez dans un état de compromis spirituel. Il est impossible pour un chrétien de demander à Dieu qu'il lui donne un esprit de sagesse et de discernement si ce chrétien baigne dans le compromis spirituel. D'abord, faire comme Daniel, montrer qu'on marche fidèlement avec le Seigneur, et après Dieu va agir. Et je pense que Dieu a le droit de le faire. Dieu a déjà d'abord fait le premier pas. Il n'est quand même pas toujours là pour faire le premier pas. Mais le deuxième pas, il nous dit qu'il nous a tellement aimés que le deuxième pas, c'est de manifester dans nos vies qu'on lui appartient vraiment en obéissant à ce qu'il nous demande, de mettre en pratique dans sa parole. La dernière partie du verset 17 nous informe que Dieu a donné la capacité à Daniel d'interpréter les rêves, et nous verrons comment cela va lui sauver la vie au chapitre 2. Daniel et ses compagnons auraient pu réciter la prière du psalmiste qui dit au psaume 119. Tournez avec moi dans le psaume 119, versets 98 à 100. Ta parole est mon bien pour toujours. Elle me rend plus sage que mes ennemis. Quelle belle parole. Ta parole est mon bien le plus cher. Pas ma maison, pas ma voiture, pas mon compte de banque. Ta parole. Ta parole. Est-ce qu'on est capable de dire ça en prière ce matin? Seigneur, ta parole est mon bien. Et mon bien pour toujours. Elle m'a plus sage que mes ennemis. Plus que mes maîtres, j'ai de l'instruction, car je réfléchis longuement à tes ordres. Ta parole est mon bien le plus précieux, parce que je prends du temps à chaque jour à méditer ta parole. C'est ce qu'il est en train de dire, car je réfléchis longuement à tes ordres. Je ne cherche pas simplement à lire un verset, à lire un chapitre, mais méditer sur ce que tu m'as permis de lire dans ta parole aujourd'hui. Plus que les vieillards, j'ai du discernement car je prends au sérieux tes exigences. Plus que les vieillards, j'ai du discernement car je prends au sérieux tes exigences. Et ce discernement, ce n'est pas le discernement du monde qui peut mener à l'égarement, c'est le discernement qu'on reçoit de Dieu parce qu'on médite ses Écritures et que le Saint-Esprit nous nourrit à travers ce qu'on a médité dans les Écritures. Versets 18 à 21, Daniel et ses compagnons vont faire une bonne impression sur le roi qui va les prendre à son service. Il est écrit au terme du délai fixé par le roi Nabuchodonosor pour qu'on lui présente les jeunes gens choisis. Le chef du personnel les lui amena. Le roi s'entretint avec eux. Daniel, Anania, Michaël et Azaria se révélèrent plus compétents que tous les autres. C'est pourquoi ils entrèrent à son service. Lorsque le roi les interrogeait sur n'importe quel sujet exigeant de la sagesse et de l'intelligence, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les devins et magicien de son royaume. Est-ce que c'est bien écrit 10 fois supérieur dans votre Bible? Oui? C'est ça qui est marqué, oui? Daniel a demandé 10 jours. Daniel a demandé 10 jours. À chaque jour, Dieu lui donnait toujours un peu plus de sagesse, un peu plus d'intelligence. Un peu plus de sagesse, un peu plus de discernement. Pour faire en sorte qu'au bout de 10 jours, il n'y a personne qui pouvait arriver à la cheville de Daniel et ses 3 compagnons. Parce que la sagesse qu'il avait reçue, le discernement qu'il avait reçu venait de Dieu. C'est pourquoi ils entrèrent... Pardon. Voilà. Daniel resta au service du roi jusqu'au moment où Cyrus devient roi. Au verset 18, nous arrivons à la fin des 3 années de formation de tous ceux qui avaient été mis à l'écart pour effectuer ce travail. Le roi babylonien examina lui-même tous les jeunes hommes. C'est l'examen oral ultime à passer. Ils seraient interrogés sur l'histoire, la science, l'économie, la langue babylonienne et probablement aussi sur des détails de la religion babylonienne, y compris, je suppose, des questions sur l'astrologie et la sorcellerie. Ces jeunes hommes devaient savoir tout ce que les autres jeunes gens devaient savoir. Le résultat est stupéfiant. Le roi les trouva 10 fois plus intelligents que les magiciens et les enchanteurs de son royaume. Ils avaient terminé les premiers de leur classe. Ils entrent immédiatement au service du roi. Il est écrit au verset 21 que Daniel resta à la cour de Babylone jusqu'à la première année du roi Cyrus, soit 539 années avant Jésus-Christ. Cela signifie qu'il fut conseiller de toute une série de rois babyloniens pendant plus ou moins 70 ans. Tout cela parce que Daniel a su dire un jour non. Et quand on va lire le livre de Daniel, la suite du livre de Daniel, c'est pas parce que Daniel a reçu des récompenses de la part de Dieu, qui a été béni de la part de Dieu au chapitre 2, qu'il ne vivra pas des tribulations. Il va en vivre des tribulations parce qu'il est chrétien, parce qu'il s'affirme. Quand le roi a voulu s'enfler la tête et qu'il s'est fait une grosse statue, puis qu'il a demandé qu'on devait s'incliner devant lui et l'adorer lui seul, et que ses conseillers sont venus lui dire que Daniel priait 3 fois par jour son Dieu, le roi est rentré en furie, il a demandé à Daniel d'adorer sa statue, et Daniel a dit non. Et le roi a dû l'envoyer dans la cage au lion. Ouais. Et le texte est magnifique à lire. Hein? Dieu envoya son ange pour protéger Daniel. Et le roi est entré dans une furie terrible. Il a pris tous les conseillers, leurs enfants, les femmes, il les a jetés dans la cage au lion, et ceux qui ont mis les pieds dedans se sont fait bouffer. Frères et sœurs, Dieu a envoyé son ange protéger Daniel. Vous ne savez jamais qui Dieu envoie auprès de vous pour vous protéger. Vous ne savez jamais qui Dieu envoie à côté de vous pour vous protéger. Si ça vient de Dieu, vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais nous savons une chose, c'est que nous pouvons compter sur la présence de Dieu à nos côtés jour après jour. Ça vient de la bouche de Jésus. Sachez-le, je serai avec vous tous les jours et ça jusqu'à la fin du monde. Notre protecteur, c'est notre sauveur, c'est notre libérateur, c'est aussi notre protecteur. Et gloire à Dieu qu'il revienne bientôt. Avant de quitter ce merveilleux premier chapitre de Daniel, quelles sont les leçons importantes pour nous chrétiens du 21e siècle? Premièrement, le monde n'a pas changé. Le monde va continuellement essayer de nous reprogrammer afin de modifier notre façon de penser. Cela est arrivé à Daniel et à ses 3 amis à travers une formation qui visait à leur faire un lavage de cerveau systématique afin de les séparer de leur passé. Cela impliquait un nouveau lien, une nouvelle éducation, un nouveau régime, une nouvelle culture, une nouvelle langue et finalement de nouveaux noms. 25 siècles se sont écoulés et rien n'a changé, frères et sœurs. Le monde tente toujours de nous séparer de notre héritage spirituel. De toute évidence, nos jeunes sont les plus exposés, mais les attaques nous frappent de manière subtile jour après jour. On nous promet des promotions qui nous éloigneront, de nos familles et de notre communauté spirituelle. On nous offre des possibilités de recevoir un enseignement très développé sans Dieu en déversant dans nos esprits des mensonges sur Dieu. On nous dit de garder le silence sur notre foi jusqu'à ce que nous soyons bien formés pour pouvoir parler de Jésus. Et nous sommes tous bombardés chaque jour par les médias d'information qui nient l'existence même de Dieu. Frères et sœurs, ne vous laissez pas séduire. Il y a une bataille spirituelle qui fait rage chaque jour pour contrôler votre esprit et mon esprit. Certains chrétiens sont en train de perdre la bataille parce qu'ils ne savent pas, ils ne savent même pas qu'une bataille est en cours. Ils suivent simplement le courant et ils se demandent ensuite pourquoi ils en sont arrivés à ressembler et à raisonner comme les Babyloniens. Deuxièmement, nous devons décider à l'avance que nous serons fidèles à Dieu. Il y a certaines décisions qui ne peuvent pas être prises à la légère. Vous devez décider que vous ne ferez aucun compromis sur les choses importantes dans votre vie chrétienne et dans toutes les choses par rapport à la parole de Dieu. Cela n'a pas d'importance que nous ne comprenions pas totalement la décision de Daniel ce matin. Pour Daniel, cela signifiait de ne pas manger la nourriture du roi à la table du roi. Ce qui compte, c'est que Daniel a tracé une ligne dans le sable, et dans cette ligne qu'il a tracée dans le sable, il était écrit ceci: je peux aller jusqu'ici et pas plus loin. Frères et sœurs, est-ce qu'en tant que chrétien, on a pu écrire quelque chose dans le sable en disant: ma vie chrétienne commence ici, et je ne peux pas désobéir à la parole de Dieu, je dois m'arrêter là. Je ne peux pas aller plus loin, sinon je ne suis plus un modèle pour qui que ce soit, autant pour mes frères et sœurs, autant pour les gens du monde à qui je veux transmettre la parole. Votre ligne peut être différente de la mienne et la mienne peut être différente de la vôtre, mais si quelque part vous ne tracez pas de ligne, vous finirez par agir comme les Babyloniens et à ce moment-là, votre témoignage chrétien sera totalement inutile. Donc, vous devez être intelligent, pensez à l'avance, afin de décider ce que vous ne ferez pas. Troisièmement, nous devons connaître nos propres limites et ne pas faire ce que nous savons être mal. Cela découle logiquement de ce que je viens de dire. Daniel connaissait ses limites. Quand ils l'ont inscrit à l'université de Babylone, il ne s'est pas objecté. Quand ils lui ont pris la langue babylonienne, il l'a appris, comme tout le monde. Il aurait pu refuser, mais ce n'était pas ce qui était important pour Daniel. Il a appris la langue. Quand ils lui ont appris une nouvelle culture, il ne s'est pas rebellé. Et même quand ils ont changé son nom, il n'a apparemment pas contesté. Mais quand ils ont dit: vous devez manger la nourriture du roi à la table du roi, il a dit: je suis désolé, mais moi je ne peux pas faire ça. Et il ne l'a pas fait. Il a été courtois dans sa façon de le dire et créatif dans les solutions qu'il a proposées. Il aurait pu commencer à crier, puis j'étais un païen, puis je lui ai dit non. Non, ce n'est pas un témoignage qui produit ça. Il a été créatif. Il a été courtois dans sa façon de le dire et dans la solution qu'il a proposée. Mais ne vous y trompez pas en maintenant sa position, il risquait de connaître de gros ennuis qui n'avaient du sens que pour lui, ses trois amis. Pour les Babyloniens, je suis convaincu qu'il a passé pour un véritable cinglé. Mais Daniel voyait à travers la nourriture un compromis dans sa foi qui l'amènerait à faire d'autres compromis plus tard et à l'amener à connaître d'autres problèmes encore plus graves. Il savait que pour lui, manger cette nourriture à cette table serait un manque de fidélité envers son Dieu et c'était une ligne qu'il ne voulait pas franchir. Ce n'était qu'un petit compromis à faire, diront certains. Qu'est-ce qu'il y a de si important à ne pas refuser de manger de la nourriture? C'est vrai et pas vrai. En apparence, cela paraît être un petit compromis à faire. Mais comme nous l'avons vu, le geste de courage de Daniel a été énorme. Frères et sœurs, cela va changer toute sa vie. Sois fidèle dans les petites choses, dit le Seigneur. Je te confierai de grandes choses. Et l'histoire de Daniel, elle est là pour ça. C'est un bel enseignement. Si notre Dieu doit occuper toute la place qui lui revient dans notre cœur, alors chaque centimètre carré de notre vie doit lui appartenir. C'est le but que nous devons viser. Il ne nous a jamais laissé libre de choisir ce qui doit lui appartenir et ce qui ne doit pas lui appartenir dans notre cœur. Il nous demande, comme Daniel l'a fait, à apprendre à dire non à tout ce qui ne vient pas de lui. Comment allons-nous trouver le courage de dire non quand il le faut? Comme Daniel, vous vous retrouverez de temps en temps face à une crise morale. Comment saurez-vous faire face à cette crise? Vous le saurez quand vous serez dedans et souvent vous ne la verrez même pas arriver, cette crise. Prenons donc maintenant la décision de demeurer ferme, afin que par la grâce de Dieu, lorsque ces moments surviendront, nous aurons le courage de faire comme Daniel et de prendre la décision de ne pas faire de compromis dans notre cœur. Lorsque vous êtes confronté à un choix moral difficile, prononcez ces mots: ce n'est pas parce que tout le monde le fait que je dois le faire. Le contraire du monde. C'est ça le monde. Tout le monde le fait. Mais on le fait. Quatrièmement, notre fidélité face à la parole de Dieu nous permettra tôt ou tard de recevoir des récompenses de la part de Dieu. Ce qui commence par Daniel dans ce livre se termine par Dieu. Ce qui commence par un acte courageux se termine par une vie de bénédiction. Regardez ce que Daniel a fait pour ce jeune homme courageux. Dieu a protégé Daniel quand il a proposé au chef du personnel de faire un essai. Dieu a fait prospérer Daniel pendant l'essai et après l'essai. Dieu a disposé le cœur du roi en faveur de Daniel. Verset 21, Daniel resta au service du roi jusqu'au moment où Cyrus devint roi. Je ne peux pas lire cette histoire sans penser aux paroles que Dieu a adressées à Élie dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 30, que vous connaissez probablement tous. « J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Cela n'avait peut-être pas semblé important à l'époque, Mais sa décision de ne pas manger de nourriture du roi va déterminer les 70 prochaines années de sa vie. Si nous parlons de Daniel au moment où je vous parle, 2500 ans après sa mort, c'est précisément à cause de cette décision qu'il a prise un jour, de refuser de manger de la nourriture. S'il n'avait pas fait le bon choix à ce moment-là, le reste du livre de Daniel ne se serait jamais écrit. Il serait devenu un juif oublié à Babylone, qui ressemblait et agissait comme tout le monde. Je sais qu'en termes de progrès scientifique, le monde a changé depuis l'époque de Daniel, et Dieu n'a pas changé, frères et sœurs. La parole de Dieu n'a pas changé, et le monde n'a pas changé. Il continue à chercher à nous séduire pour qu'on fasse des compromis dans notre vie chrétienne. La bonne nouvelle du chapitre 1, c'est qu'il est possible de vivre pour Dieu à l'école primaire, secondaire, universitaire, au travail et à travers votre carrière. Daniel nous a montré le chemin et Jésus nous a montré lui aussi le chemin. Il y a un frère, je ne vous dirai pas son nom, mais c'est le pasteur des jeunes à l'église Etterbeek. C'est un gars qui paraît bien, je n'ai pas dit son nom. Mais c'est un homme que j'admire beaucoup. C'est un homme qui a pas loin de 30 ans. C'est un homme qui est célibataire. C'est un homme qui a des combats comme tous les célibataires. Il est approché par beaucoup de femmes, parce qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Hein? Ce n'est pas les hommes qui approchent les femmes, c'est les femmes qui approchent les hommes. Il a des demandes incroyables pour désobéir à Dieu dans le domaine que vous savez. Et il tient son bout. Hein? Il tient son bout. Il est un modèle là où il travaille, peu importe ce que les gens peuvent dire. Et on ne le congédie pas pour ça. Et je pense qu'il a le respect de ses patrons parce qu'il est capable de tenir son bout et d'afficher. Il leur dit, « Pourquoi tu ne veux pas... » Quand on leur demande, « Pourquoi tu ne veux pas sortir avec moi? Pourquoi tu ne veux pas coucher avec moi? » Moi, je suis chrétien, j'ai des principes de vie. C'est aussi simple que ça. Et je ne veux pas désobéir à la parole de Dieu. C'est extraordinaire, ça. Hein? Tu entends ça de la bouche d'un célibataire de son âge, tu tombes des nues. Hein? Même si tu es pasteur, tu tombes des nues, tu dis, tiens le coup, quoi? Oui, oui. Parce que j'ai la ferme conviction que si je désobéis, je risque de marier la femme que Dieu n'avait pas prévue pour moi. Ouais. Pas être marié, c'est quelque chose, mais être mal marié, c'est longtemps. Hein? Ouais. Alors, on est mieux de rester célibataire à ce moment-là. Mais moi, j'admire ce bonhomme-là parce que c'est quelqu'un qui est capable de se tenir debout et de dire, écoute, moi, je me réserve pour ma femme. Allez raconter ça au gars du monde, un gars de 30 ans qui n'a jamais couché avec personne. Mais lui, ce n'est pas ce que le monde pense. Il ne vit pas pour ce que le monde pense, il vit pour son Dieu. Il vit pour les règles que Dieu lui a données dans sa parole. Et à ce moment-là, eh bien, il est heureux et il me bénit. À chaque fois, en plus, il dirige la musique. Tu vois, Joël? Il dirige la musique là-bas, la louange au début. Et c'est un homme qui se tient debout, c'est un homme... Eh bien, on a besoin d'un modèle comme ça dans nos églises aussi. Des gens qui ne font pas de compromis. Si vous faites des compromis dans votre vie présentement, simplement confessez-le à Dieu. On n'est pas ici pour vous humilier. Humiliez-vous plutôt devant le Seigneur dans le secret. Confessez cela à Dieu. Dis, Seigneur, je te demande pardon parce que ma vie, c'est vrai, elle ne ressemble pas nécessairement à ce que toi, tu me demandes de vivre. Je te demande pardon parce que j'ai des compromis dans ma vie. En voilà un, en voilà un deuxième, en voilà un troisième, un quatrième. Et Seigneur, eh bien, moi, je veux recevoir ta bénédiction. Moi, je veux que tu me bénisses, Seigneur. Je veux que tu travailles dans ma vie pour que tu puisses te glorifier à travers moi, Seigneur. Maintenant, comme Daniel, donne-moi la ferme conviction de marcher dans tes voies. Comme Daniel, donne-moi la ferme conviction de ne pas faire aucun compromis pour que je puisse te louer vraiment à toute liberté et t'adorer comme tu le mérites. Amen.